talmudique. Du 30 novembre au 12 décembre 2015 a eu lieu en France la conférence de Paris sur le climat, organisée dans le cadre des Nations Unies. Cette 21e conférence des parties, dite COP21, a réuni des participants du monde entier pour décider des mesures à mettre en place dans le but de limiter le réchauffement climatique. Elle s'est conclue par un accord international, validé par tous les participants, applicable à tous les pays, fixant comme objectif une limitation du réchauffement mondial entre 1,5 degré et 2 degrés d'ici 2100. Cette conférence s'est attelée non seulement aux conséquences finales, le dérèglement climatique, mais aussi à la discussion sur les modes de vie des sociétés qui en sont les causes. Une conférence qui a donc invité à repenser les sociétés et le sens même de l'homme. Nous sommes dans un temps, écrit Bruno Latour, qui nous oblige à une redéfinition fondamentale de cet être pétri d'humus que nous avons appelé pour cette raison l'humain. Les fondements philosophiques des différents engagements qui ont été pris relèvent d'une conscience éthique qu'Hans Jonas, par exemple, l'un des philosophes les plus importants du XXe siècle, a développé dans son livre intitulé « Le principe responsabilité » et a approfondi dans tous ses autres ouvrages, dont « Pour une éthique du futur ». On peut résumer ces thèses par un impératif catégorique. Agis de telle façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Ce qui revient à dire, nous n'avons pas le droit de choisir le non-être des générations futures à cause de l'être de la génération actuelle, nous n'avons même pas le droit de le risquer. Cette éthique de la responsabilité et du futur fait écho à l'une des expressions les plus célèbres du texte biblique, le fameux « Ayez, Asher, Ayez », le nom de Dieu révélé à Moïse lors de l'épisode du buisson ardent. La traduction classique en est « Je serai en tant que je serai ». Le redoublement de cette carte d'identité divine, de ce « je serai », peut se comprendre de la manière suivante. Fais en sorte que ta parole et ton action soient toujours orientées vers le futur, « je serai », de telle sorte que d'autres qui viendront après toi puissent aussi continuer à dire « je serai ». Référence biblique qui nous conduit à nous demander comment cette question de la survie de l'humain sur la planète Terre s'enracine dans les textes de la tradition juive. Ces textes de la tradition juive ont-ils pensé, avant l'heure et sans anachronisme, la question de l'écologie? Ont-ils pensé le lien de l'homme et de la nature, de sa responsabilité pour la nature? Et si oui, de quelle manière? Poétique, mythologique, juridique, philosophique, éthique? Yeshaya d'Alsace, bonjour.
Bonjour.
Yeshaya d'Alsace, c'est un grand plaisir de vous accueillir à nouveau dans Talmudique. Vous êtes rabbin de la communauté Massorti d'Or Vador à Paris. Et vous avez consacré votre thèse de rabbinat à la question de l'écologie. Sujet original pour un rabbin, pourquoi ce choix, Yeshaya d'Alsace?
Alors, ce choix était, d'abord, le sujet de l'écologie m'intéressait en soi, mais ce qui m'intéressait derrière ce choix-là précisément, c'est le fait de savoir si une tradition aussi ancienne que la tradition juive était capable de répondre de façon péremptoire à une problématique tout à fait actuelle. Or, la question de l'écologie, elle est peut-être vieille comme l'humain ou comme le monde, mais elle est finalement relativement nouvelle dans la façon dont on le pense aujourd'hui. C'est-à-dire que jusqu'à la révolution industrielle, l'être humain avait certains pouvoirs de changer la nature et l'Homo sapiens a déjà depuis des milliers d'années éliminé des espèces et transformé la nature. Mais c'est avec la révolution industrielle que les choses changent véritablement et que l'être humain n'est plus face à la nature qui représenterait pour lui soit une source de bonheur et d'abondance, mais aussi une source de danger. Tout d'un coup, l'être humain devient lui-même un danger pour la nature. Et ce changement de paradigme me semble très intéressant. Et ce qui me préoccupait, c'est de savoir finalement une tradition comme la nôtre, 4000 ans environ, très ancienne, une des plus vieilles religions du monde, une religion aussi très marquée par des textes, non seulement des textes explicatifs, mais aussi des lois très précises. Comment une telle religion est-elle capable de répondre à un problème du temps? Et on aurait pu prendre d'autres sujets d'ailleurs, des sujets de société ou autres, mais je pense, moi personnellement comme juif, comme ça, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup, c'est de savoir la pertinence de ma tradition. est-elle encore pertinente ou pas? Ou sommes-nous, comme certains disaient, je crois que c'est Toynbee qui disait des Juifs, ce sont des fossiles. Sommes-nous un fossile, une résurgence du passé, intéressante certes sur le plan archéologique, ou sommes-nous une véritable pensée pour aujourd'hui? Souvent les gens nous voient comme des fossiles, moi je ne me vois évidemment pas comme un fossile, mais c'est la question. Et sur cette question de l'écologie, il y a en fait... Ça m'a amené à réfléchir à plein de choses et c'est un sujet très intéressant.
Alors justement, alors autour de cette question de l'écologie et de la tradition juive, je vous propose un parcours en deux étapes, cette semaine et la semaine prochaine. Dans un premier temps, j'aimerais que nous voyions ensemble les questions du rapport de l'homme et de la nature. Puis dans un second temps, la semaine prochaine, la question plus spécifique de la relation de l'homme au dérèglement climatique et l'action que l'homme peut et doit entreprendre en conséquence de ce dérèglement. Donc où il sera question de ce que j'appelle... écologie préventive et écologie réparatrice. Reprenons donc le questionnement depuis le début. Comment les textes de la tradition biblique et leurs commentaires ont-ils pensé la relation de l'homme et de la nature? L'homme, on le sait, n'est pas premier. Il arrive après la création du monde en deux récits différents, au chapitre 1 et 2 de la Genèse, deux versions qui proposent deux visions du monde différentes, du lien de l'homme au monde et à la nature en particulier, Rabbin d'Alsace.
Alors d'abord, les récits de création, tous les deux, ont ça en commun, me semble-t-il. Alors, il faut peut-être expliquer aux auditeurs que quand on parle de deux récits de création, en fait, on parle du premier, qui est le premier chapitre de la Genèse, et le récit suivant, c'est celui avec le Gan Eden, dans le chapitre suivant, donc avec le Jardin d'Éden. C'est ça, les deux récits. Mais dans ces récits de création, et il me semble un point commun, c'est quand même anthropocentrique, c'est-à-dire que l'homme est au centre. Dans le premier récit, avec les six jours de création, puis le Shabbat, l'homme est le sommet de la création. C'est pour lui qu'on dit « Tov Meod », c'est très bien, c'est très bon. Et on voit bien que l'être humain arrive comme une espèce de couronnement d'un processus. Là-dessus... il est important, je ne sais pas si l'être humain dans le premier récit est vraiment au sein de la nature ou si la nature a été mise en place pour lui. On peut avoir les deux lectures. Dans le deuxième récit, c'est un peu différent parce que là, l'homme est vraiment au sein de la nature dans la mesure où il est créé, puis placé dans le Gan Eden, c'est-à-dire ce qu'on pourrait comprendre comme la nature. Encore que le Gan Eden soit une nature idéalisée, contrairement à ce qui va se passer après, puisqu'il va être expulsé du Gan Eden, et là, la nature va devenir hostile, puisqu'il va y avoir des épines, et il va falloir travailler dur pour faire sortir des fruits de la terre. L'homme est placé au sein de cette nature, mais la nature est quand même faite pour lui, parce que l'homme est au centre quand même de ce jardin, même s'il y a un arbre au centre. L'homme est aussi au centre, et il n'a pas plu, dans le deuxième récit, il ne pleut pas tant que l'homme n'est pas là.
Oui.
Verset qui dit ça clairement. C'est-à-dire que comme il n'a pas plu, il n'y a pas d'herbe non plus. Alors, c'est-à-dire que tout est là au potentiel.
Oui. Alors, je pense qu'il faut reprendre les choses dans le verset lui-même. Dans la première création, il est dit que Dieu créa l'homme à son image, l'homme et la femme. Et ensuite, il n'y a pas d'histoire de cet homme. C'est simplement une description de cette création. Alors que dans le deuxième récit, c'est annoncé de manière tout à fait étonnante. On dit « il n'avait pas encore plu sur la terre, l'homme n'était pas possible, puisque l'homme qui va être fabriqué de terre, de poussière de la terre, pour pouvoir prendre forme, pour pouvoir être une matière cohérente, a besoin d'eau, a besoin de liquide. Or, comme il n'avait pas plu, l'homme n'est pas possible. » Et c'est à ce moment-là que le verset a cette phrase étonnante et une buée est montée de la surface de la terre, a formé les nuages et est redescendue pour arroser la terre. À ce moment-là, Dieu prit la poussière de la terre et forma l'homme et lui insuffla un souffle de vie ou un souffle de parole selon les commentaires. Ce qui est intéressant dans cette deuxième création, c'est que on a besoin d'expliquer qu'il y a un cycle de l'eau et un cycle de la pluie. Rabbin d'Alsace.
Et surtout, je crois aussi, c'est pas tout à fait le cycle là, mais l'esprit qui vient derrière, c'est-à-dire que c'est ce roi Chaim. Dans le deuxième récit, il y a non seulement ce cycle de l'eau, mais il y a aussi le rapport à la terre. Vous avez commencé à signaler où Adam, l'homme, est le masculin de Adama, terre, comme s'il y en avait un couple. Et c'est très curieux parce que en hébreu, donc le féminin se fait en ajoutant un ha à la fin, donc Adam, Adama. Mais Adam, qu'est-ce que c'est? Cet Adam, qu'est-ce que c'est? C'est l'humain. C'est l'humain en tant que genre, mais pas en tant que masculin, bien évidemment. Mais il y a une ambiguïté dans le récit, puisque le même personnage qui va s'appeler Monsieur Adam, je dirais, oui. Adam, va avoir une femme qui s'appelle Chava, Ève, et là, il s'agit d'un monsieur.
Vous voulez dire qu'il y a une chose extrêmement intéressante d'un point de vue philologique, c'est que le mot homme en hébreu, Adam, vient du mot Adama, qui veut dire la terre, et donc il y aurait une sorte d'ontologie commune entre l'homme et la terre, de se préoccuper...
C'est pas seulement cela.
De la terre serait de se préoccuper de lui-même.
Ça va plus loin, je pense. C'est-à-dire que il y a eu un côté terrien, humain, humus, le jeu de mots existe aussi en français, d'où la traduction de Chouraki par le glébeux. C'est-à-dire que l'être humain vient de cette terre, bon, mais aussi, d'ailleurs on lui rappelle ça, puisqu'on lui dit que tu es venu de la poussière et tu retournes à la poussière, sauf que poussière en hébreu c'est afar, et c'est pas le même mot, ça n'a pas la même portée que adama. Afar, c'est de la poussière qui est stérile quelque part, c'est du sable, si vous voulez, enfin c'est de la poussière, alors que adama, ça sous-entend une richesse. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Adam est le masculin de Adama. C'est pas seulement qu'il en vient, il fait un couple avec elle. Si on suit cette étymologie jusqu'au bout, en tout cas dans le premier temps où Adam n'est qu'un être asexué, si vous voulez, n'est pas un monsieur qui cherche une femme, il n'est pas encore là. Il est tout simplement le partenaire de Adama.
Et alors, quelles sont les conséquences de cette idée de l'homme comme couple de la terre, comme conjoint
de la terre? Les conséquences ne sont pas du tout marquées, justement. Ça, c'est le génie du récit biblique, c'est qu'il vous lance quelque chose, une balle, et puis à nous de la saisir au bon et d'en faire quelque chose éventuellement, si ça nous intéresse ou pas. Donc là, la balle est lancée, est-ce qu'on le saisit ou pas? Je ne sais pas quelles sont les conséquences. On peut en tirer toutes sortes de conséquences, mais c'est pas un discours qui continue par la suite. Il est clair que Adam, il a une femme, c'est Chava, c'est pas Adama. Mais les conséquences seraient quand même que du coup, Adama serait un personnage, la Terre. Alors du coup, ça nous ramène un peu au discours très à la mode aujourd'hui de Gaïa, vous voyez, sorte de déesse mythologique chez les Grecs, qui est la Terre, mais qui serait personnalisée.
Avec un danger extrêmement païen, si
Exactement.
On peut dire.
Exactement. Oui. Et là, c'est pour ça que dans le discours biblique, le paganisme est écarté systématiquement. Et le fait où on sait que dans des cultes anciens, dans des cultes antiques, il y avait un culte de la terre, il y avait notamment même des cultes pour pouvoir favoriser la fécondité de la terre, avec même, quelquefois, semble-t-il, dans certaines civilisations, et il n'est pas sûr que ça se pratiquait pas chez les Cananéens, le fait d'aller forniquer dans les champs pour favoriser la fructuation future des récoltes, voyez. Donc il y a carrément le fait que, du coup, Adama pouvait vraiment être, entre guillemets, la femme de l'homme.
Alors,
ça va de soi que le judaïsme est très opposé à ce genre de choses.
Alors oui, mais cette question du féminin est malgré tout, je dirais, en sous-texte de ce texte, en tout cas dans un commentaire que fait le Zohar, qui est un commentaire qui me semble extrêmement important, qui dit qu'est-ce que c'est que cette buée qui monte de la terre pour former les nuages et redescendre pour arroser la terre, donc il va donner cette cohérence. Et le Zohar dit, c'est le désir du féminin pour le masculin. Et ça m'amène à cette définition de l'homme. Être, c'est être désiré. Ça veut dire que il n'y a pas d'homme dans la solitude de soi-même. Être, c'est être pour quelqu'un. Et c'est parce que on est pensé par quelqu'un qu'on peut exister de la même façon que faire exister l'autre comme une création, c'est lui permettre, c'est penser à lui. Je reprends ici une formulation d'un livre de Frédéric Worms qui s'appelle Penser à quelqu'un, mais je trouve que ce penser à quelqu'un est déjà dans le texte biblique, dans ce être, c'est être désiré par l'autre.
Rabbin d'Alsace. Tout à fait, mais en général, la lecture biblique, la lecture juive classique de ces textes, elle est justement dans la question de l'altérité, c'est toujours l'altérité humaine. Il y a là la trace, si vous voulez, d'une altérité vis-à-vis de la nature, qui est intéressante. Alors cette altérité peut déboucher, évidemment, sur une forme de paganisme qu'on va rejeter. Mais néanmoins, elle est là tout de même. Et c'est intéressant, on retrouve quelque chose d'un peu similaire dans le premier récit, parce qu'il y a un verset qui est très cité pour accuser le monothéisme qui serait la cause de toutes les destructions et de la révolution industrielle. On en a mis beaucoup de choses sur le dos du monothéisme, à mon avis, de façon complètement idiote d'ailleurs, et injuste. Mais dans le premier récit, Dieu donne l'ordre à l'homme de conquérir la terre. Aller conquérir la terre. En hébreu, D'abord, la terre, c'est pas Adama, là, c'est un autre mot, c'est Eretz. C'est un synonyme, si vous voulez, mais c'est pas tout à fait le même sens. En hébreu, c'est Kivshua. Aller la conquérir, en effet. Kibush, c'est la conquête. Qui peut être une conquête militaire. Donc là-dessus, les traducteurs n'ont pas tort en soi. Sauf que Rashi, le grand rabbin français du Moyen-Âge, commentateur de la Bible célèbre, fait remarquer une chose. Il dit que, dans son commentaire, que ce terme de Kivshua, c'est un synonyme employé, il prend un autre texte pour montrer, faire sa démonstration, une autre occurrence de Kivshua, et il dit que, en fait, c'est par rapport à une femme. Et vous voyez, on retrouve cette idée de couple. C'est que la conquête
d'une femme.
Exactement, la conquête d'une femme. Alors, la conquête d'une femme ne peut pas être une conquête forcée dans le judaïsme. C'est impossible. Le viol est interdit, strictement, et un mariage forcé ne serait pas valable. Donc, conquérir une femme dans le judaïsme, c'est comme en français, c'est faire une belle conquête, c'est la séduire. C'est certainement pas la forcer. Et donc, du coup, vous voyez ce verset célèbre qu'on a tellement chargé, l'homme qui force la nature, l'homme qui l'exploite la nature, et bien dans le judaïsme, un être humain, un monsieur, n'a pas le droit d'exploiter sa femme. Il doit bien la traiter.
Alors, qu'est-ce que c'est que la séduire?
Et Ishto Kegufo, dit le Talmud, oui, sa femme est comme son corps. Ben oui, mais du coup, la nature est mon propre corps. La nature est ma partenaire potentiel. Vous voyez, on a ce jeu de mots entre Adam, Adama. On a maintenant cet autre verset du premier récit, qui est pourtant un récit beaucoup plus industrialisé, si vous voulez. Ça, c'est le Rav Soloveitchik qui fait une double lecture de ces récits, mais peut-être on en parlera après. Dans ce premier récit aussi, où pourtant l'homme va conquérir la terre, eh bien, il doit la conquérir de façon séduisante et établir un partenariat et un partenariat équilibré.
C'est-à-dire dans le deuxième récit, vous parlez de partenariat qui serait un partenariat de responsabilité, puisque la terre, c'est ma partenaire, le conjoint de l'homme. À ce moment-là, je suis responsable. Et dans le premier récit, ça serait quelque chose de plus romantique, cette séduction de l'homme.
Je ne sais pas si le mot romantique convient, bien que le romantisme a eu un rapport à la nature très intéressant. Hein. Je ne sais pas si j'emploierais ce mot. Disons qu'en tout cas, il y a un rapport, je ne sais pas si encore une fois romantique, mais en tout cas, il y a un rapport d'équilibre également, c'est-à-dire contrairement à ce qu'on a souvent dit injustement. Maintenant, dans le premier récit, il faut bien comprendre, si on compare les deux récits, le rapport à la nature n'est pas du tout le même, puisque dans le premier récit, il y a l'ouverture à l'industrialisation, c'est-à-dire que l'être humain est là pour exploiter, pour régner sur les animaux et exploiter la nature, et il est aussi censé se multiplier, alors que dans le deuxième récit, il est comme un contemplatif au sein de la nature, et c'est tout à fait différent. Et c'est très intéressant, c'est les deux rapports de l'humanité jusqu'à aujourd'hui face à la nature. On peut avoir un rapport contemplatif, la regarder même de haut, comme il y en a du Bertrand, et faire des très belles photos. On peut admirer les arbres, on peut admirer les montagnes, etc. Alors qu'on peut aussi, face à la nature, vouloir l'exploiter.
Et c'est intéressant parce que la place d'un texte est toujours importante. La seconde création, la première création se termine par le Shabbat et la deuxième création commence par le Shabbat. On a l'impression qu'il y a une économie shabbatique qui est une manière de dire attention, c'est possible, mais il faut savoir retenir son geste.
Alors là, vous lancez dans un grand sujet qui est la question du Shabbat dans le judaïsme et ce que ça peut représenter sur ce sujet-là. La question du Shabbat souvent mal comprise. Le Shabbat, c'est pas ne rien faire. Le Shabbat, c'est pas se reposer, contrairement à ce que les gens croient. C'est vraiment cesser, c'est le sens de Shabbat. Et Dieu lui-même cesse. Donc Dieu cesse la création, c'est-à-dire qu'il se met en retrait, si on reprend la notion laurianique de Tzimtzum, Dieu se retire pour laisser sa place à autre chose, donc à l'homme, il y a là-dessus une altérité, mais du coup l'homme lui-même faisant Shabbat doit aussi être capable de se retirer. Et les interdits de Shabbat, qui sont très énumérés dans plein de détails dans la littérature rabbinique, les interdits de Shabbat en fait consistent au béaba de la civilisation, c'est-à-dire la fabrication de la nourriture, du pain par l'agriculture, la fabrication du vêtement, la fabrication de l'habitation, la fabrication du livre, oui. C'est très intéressant tout ça. Donc c'est tout ce qui fait la civilisation humaine, qui est très belle, mais qui en même temps peut évidemment mener aux limites qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire justement de la surexploitation de la nature. Et donc, le Shabbat consiste à ne pas faire un seul geste qui transformerait la nature.
Voilà, c'est ça. Donc, il faut que le Shabbat précède l'homme parce que le Shabbat en est la possibilité même. C'est-à-dire, c'est seulement un être qui est capable de ne rien faire qui peut être humain.
De ne rien faire, je dirais, de se limiter. Mmh. Et dans le deuxième récit, n'oublions pas, il se termine par une expulsion. De la nature, c'est une transformation de la nature. On passe d'une nature à l'autre, d'une nature luxuriante et belle à une nature plus hostile.
האדם עץ השדה, כמו האדם גם העץ צומח, כמו העץ האדם נגדע, ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה. כמו עץ השדה, כי האדם עץ השדה, כמו העץ הוא שואף למעלה, כמו האדם הוא נשרף באש, ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה. כמו עץ השדה, אהבתי וגם שנאתי, טעמתי מזה ומזה, קברו אותי בחלקה של עפר, ומה לי, מה לי בפה. כמו עץ השדה, כמו עץ השדה.
Rabbin d'Alsace, nous sommes en train d'écouter une chanson de Shalom Hanor sur un poème de Nathan Zar, une chanson qui était très populaire dans la pop israélienne des années 70 et qui reprend dans son refrain un verset célèbre du Deutéronome « Ki Adam et Sassadé »« Car l'homme est un arbre des champs ». Rabbin d'Alsace.
Alors c'est un verset absolument merveilleux, et on parlait de ma thèse rabbinique, elle tourne principalement autour de ce verset. C'est un verset très beau qui, d'ailleurs, chez les commentateurs, a donné un sujet à toutes sortes d'interprétations, parce qu'il y a une ambiguïté dans le « qui » en hébreu. C'est intéressant, ce n'est pas si simple de traduire ce verset, mais l'idée, c'est que où est-ce que l'homme est un arbre des champs ? Mais l'idée principale, c'est qu'il y a une comparaison entre l'humain et l'arbre. Et que l'arbre, d'après certaines lectures en tout cas, serait comme l'homme, et qu'il n'a rien fait, il est innocent, donc tu ne dois pas l'abattre. Parce que le contexte de ce verset, qui est très beau, très poétique, et disons un mot du poème de Nathan Zar, qui reprend, qui est un très très grand, Nathan Zar est un immense poète israélien contemporain, peut-être le plus grand encore vivant, et qui prend donc cette expression biblique et la développe pour parler justement de l'être humain comme un arbre planté dans son être, avec ses racines qui vont aussi dans le ciel, etc. Et donc c'est un très beau poème, mais le verset lui-même, si on se plonge dans le Deutéronome, parle tout autre chose. A priori, il ne parle pas de l'humain comme ça. Il nous dit, quand tu iras à la guerre, que tu feras un siège contre une ville, tu ne dois pas abattre l'arbre de champ, l'arbre fruitier, parce que tu vas manger de ses fruits. Et là arrive cette expression qui Adam et Sassadé. Est-ce que l'arbre est un homme pour que tu ailles te battre contre lui ? Sous-entendu, tu n'as rien fait, ou alors économise-le, etc. Donc il y a plein de lectures possibles de ce passage. Mais du coup, ce passage amène à réfléchir à la question aussi de l'écologie, mais on y reviendra plus tard. Mais il amène à réfléchir à la question de l'arbre qui est centrale dans tout le récit biblique. L'arbre est omniprésent. Il faut le rappeler, on a parlé des récits de la création. L'arbre est au centre du deuxième récit. Deux arbres, l'arbre de la connaissance, Etzadat, Tovvera, et l'arbre de vie, Etzachaim. Ce qui n'est pas très clair d'ailleurs, ces deux arbres. Qu'est-ce que c'est que ces arbres ? Qu'est-ce que c'est que la connaissance ? Qu'est-ce que c'est que la vie ? De quelle vie on parle ? Donc on peut parler de ça pendant des heures.
Maïmonide, dans le Guide des Égarés, fait remarquer que le mot arbre, Etz, est de la même racine que le mot Etza, qui veut dire le conseil, qui veut dire la méditation, qui veut dire la réflexion. Et il dit qu'à chaque fois qu'on voit un arbre, c'est un impératif qui nous invite à réfléchir.
Ça me paraît absolument pertinent, c'est une évidence. C'est pas pour rien d'ailleurs que c'est l'arbre de la connaissance, Etz Hadaat. D'ailleurs, si on lit bien en Etz Hadaat, c'est le conseil de la connaissance. Le conseil de l'intelligence. Donc, ça nous ramène à cette question que pour l'humain, dans le judaïsme, la connaissance, l'intelligence, c'est quelque chose de fondamental.
Dans l'étude, et ça me rappelle un texte, un autre texte de la Mishnah que l'on trouve dans les Pirkei Avot et que cite d'ailleurs Catherine Chalier dans son livre Alliance avec la nature, une Mishnah très très intéressante que j'aimerais que vous nous lisiez en hébreu, puisque je vous ai dit que nous allions en parler, Rabbin d'Alsace, et que nous en fassions un commentaire, parce que je crois que c'est absolument essentiel.
Rabbi Shimon Omer, donc Rabbi Shimon nous dit, Amalech Baderech, celui qui va en chemin, Veshoné, et étudie, ou Mafsik Mishnato, il interrompt son étude, Ve Omer, et il dit, Manahe Ilanze, comme il est beau cet arbre, ou Manahe Nirze, comme il est beau ce champ labouré, Maale Alav Akatouv, qui loue Mitrayev Benafcho, on lui compte comme s'il méritait la mort. Alors, c'est très violent, cette Mishnah.
J'ai une autre traduction que je me suis proposée. Celui qui marche sur la route en répétant son étude et qui s'interrompt pour dire « comme cet arbre est beau et comme ce champ est beau », l'écriture considère qu'il met son âme en péril.
Bon, très bien.
Comment comprenez-vous ce texte ?
Ah ben, c'est un texte qui est un peu difficile parce qu'il arrive comme un peu comme un cheveu sur la soupe. On se dit, qu'est-ce que ce pauvre gars qui a juste dit comme il est beau l'arbre, on va lui dire, tu mérites la mort, tu risques de perdre ton âme, c'est quelque chose de très violent. Mais ça, il faut comprendre que le langage rabbinique est souvent comme ça, avec un peu provocateur, un peu exagéré peut-être, mais en même temps forcément très profond. Et il me semble là que la façon dont on peut le comprendre, en tout cas dans notre contexte de conversation, c'est que celui qui se brancherait que sur la nature, et il serait en extase devant la nature. On a parlé tout à l'heure de paganisme, de rapport païen à la nature. Eh bien, il serait en extase devant la nature. Comme cet arbre est beau, il s'arrêterait à cela, et il interromprait son introspection, son intelligence, justement, pour être fasciné par la beauté de l'arbre. Eh bien, Mitraïev Benafcho, il risque de perdre son âme. Justement. Je crois que là-dessus, ça nous amène à un point très intéressant par rapport au discours écologique d'aujourd'hui. De nos jours, on entend toutes sortes de discours autour de l'écologie, qui est un sujet évidemment devenu à la mode. Mais il y a certains discours où il y a une espèce de néopaganisme, je dirais, un discours extatique. La nature est merveilleuse, la nature est si belle qu'on en oublie la réflexion, et notamment la réflexion éthique, par rapport au devenir de l'humanité. C'est-à-dire qu'on a un tel souci, chez certains en tout cas, de rapport à la nature, qu'on en arrive à des véritables délires. Et soit un discours complètement gnangnan et bébête, bon, il n'est pas très méchant, mais enfin, il est gnangnan, soit un discours quasiment païen, néo-païen. Ça, c'est le problème de la deep ecology, vous savez, c'est toute une mentalité d'écologie radicale qui veut éliminer l'homme comme s'il y avait une opposition entre l'homme et la nature. Ce qui me paraît absurde, parce que l'homme fait partie de la nature au bout du compte. C'est dans les récits bibliques, mais c'est aussi dans la nature elle-même du monde, et que, somme toute, la nature, elle est tout, elle est y compris nous-mêmes.
Oui, alors justement, ce nous-mêmes, on pourrait peut-être interpréter cette écologie dans une vigilance de jamais défaire les choses de leur contexte, c'est-à-dire l'homme de la nature, comme vous venez de l'évoquer, et le péril dont parle Rabbi Yaakov dans la Mishnah, n'est-il pas parlé de la beauté de l'arbre séparée de son champ ? Et du champ, indépendamment de son arbre, c'est-à-dire de leur environnement respectif. Et dès lors, n'y a-t-il pas une certaine définition de l'écologie comme cette manière de penser le monde avec les ponts, les liens qui unissent les êtres, les choses et les événements, les réseaux, les interactions, et donc de prendre en compte la complexité. Et ce serait là une dévisée fondamentale de l'étude, non plus penser seulement l'objectif, l'objet ou le subjectif, le soi-même, mais le trajectif. Comme le propose Augustin Berque dans son livre intitulé « Écoumène », terme qui désigne le monde dans ses structures de liens, de relations, et l'écologie serait d'abord une éthique relationnelle. Rabbin d'Alsace.
C'est une lecture très intéressante que vous faites, cette question de séparation de l'arbre du champ labouré. En effet, il ne faudrait pas séparer les choses. En même temps, je me demande si on ne peut pas aussi avoir l'autre lecture, c'est-à-dire que l'arbre en question est peut-être tout simplement un arbre cultivé, un ilan au sens de l'arbre du verger, et que le champ labouré serait aussi, évidemment, de la culture humaine. Et du coup, on aurait presque un discours où de quelqu'un qui s'extasie, à l'inverse de s'extasier face à un arbre naturel en opposition à un champ labouré, et qu'il séparerait, qui serait une faute d'après votre lecture, qui est très intéressante, on pourrait avoir aussi l'idée qu'il s'extasie tout simplement sur ce que l'homme est capable de fabriquer, de transformer de la nature. C'est-à-dire l'exploitation, il s'extasierait de l'exploitation de l'homme de la nature. Comme on peut photographier des villes de haut, des parcs de haut, ou pas de haut d'ailleurs, et dire, waouh, qu'est-ce que l'homme est capable de faire? C'est magnifique, un paysage urbain. C'est vrai qu'un beau paysage urbain, c'est magnifique. Ça peut être magnifique. Or là, il aurait interrompu son étude pour cela. Or l'étude, ce serait un rapport méditatif au monde. Vous voyez, on peut, mais c'est tout le problème. Enfin, c'est toute la richesse de nos textes. On peut les prendre de tous les côtés.
Et, je pensais que l'étude, il interrompait son étude parce que il interrompait ce travail de mise en relation, de pont, de lien et de relation. Je vous propose, Rabbin d'Alsace, que nous continuions cette conversation la semaine prochaine. En tout cas, merci pour cette ravruta, pour ce compagnonnage d'études. Et semaine prochaine, qui sera le premier dimanche de la nouvelle année 2016, donc l'occasion pour moi et toute l'équipe de Talmudique de vous souhaiter, à vous et à tous les auditeurs, d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci encore.
Merci.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin, préparée avec Françoise-Anne Ménager, aujourd'hui à la technique, Manuel Couturier, à la réalisation, Dany Journeau. Vous pouvez réécouter et podcaster l'émission sur le site Talmudique de France Culture, où vous retrouverez tous les détails biographiques et bibliographiques concernant notre invité. Kol Tov, Leitraot, au revoir, bonne fête, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.